Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. De retour.
De retour.
Alors,
oui.
Ton absence m'a permis d'inviter plusieurs chanteurs de la chorale. Et c'était très intéressant d'entendre leur motivation, en fait. Pourquoi ils se sont mis à chanter dans cette langue impossible, en yiddish.
Et très bien, je dois dire. Oui. C'est vrai que tu nous as fait beaucoup travailler, mais le résultat est là.
Ouais.
Les gens connaissent tout. Les textes. Bon, les textes sont en français, mais aussi les chansons en yiddish.
Oui.
Voilà, donc, comme je vous l'avais promis déjà depuis un moment, je vais présenter le livre de Carole Ksia-Zenitzer-Matron, qui s'appelle « Déplier le temps, Israël Yoshua Zinger, un écrivain yiddish dans l'histoire ». Alors, c'est une édition classique Garnier. C'est un livre qui est paru déjà il y a un certain temps, une dizaine d'années, mais je viens seulement d'apprendre son existence. C'est pour ça que je l'ai demandé au Classique Garnier, qui, il faut dire, sont très gentils, envoient les livres qu'on demande. Alors, évidemment un texte consacré à Israël Yoshua Zinger. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de choses sur lui que sur le très célèbre Isaac Bashevis. Mais Carole donc Matron s'est vraiment consacrée à lui. Alors, je lis un tout petit peu sa biographie. C'est une ancienne élève de l'ENS, agrégée de lettres, docteur en littérature comparée. Traductrice du yiddish, elle a publié « Le sacrifice de la beauté » en 2000 et « Les temps de la fin » Rode Zinger Bulgakov, Paris 2006. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui fait de la littérature comparée, quoi. Ses travaux portent sur l'écriture de l'histoire ainsi que sur la modernité yiddish. Donc, le livre date de 2012, mais il est une reprise de sa thèse de 1990, qu'elle a réécrite pour pouvoir l'éditer. Donc, c'est un livre très dense, de 330 pages. C'est une étude littéraire pure, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu d'éléments biographiques. Hein. Moi, je pensais qu'il y aurait... qu'on retracerait un petit peu la vie d'Israël Yoshua, mais non, pas du tout. Nous apprenons dans le livre simplement qu'il est parti aux États-Unis en 1934, donc avec la conscience très claire qu'il n'y aurait pas d'avenir pour les Juifs en Pologne. Mais à part ça, bon, il n'y a pas d'éléments ni sur son mariage, sur ses enfants, etc. Voilà. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ses livres. C'est très dense, c'est très savant. C'est vraiment une analyse littéraire extrêmement.
Une thèse, quoi.
Une thèse, voilà, une analyse très fouillée, assez complexe. Voilà. Donc, je vais d'abord un petit peu reprendre un petit peu le plan de l'ouvrage. Donc, elle parle donc des premières nouvelles, qui sont des nouvelles avant-gardistes, expressionnistes, qui sont de lecture difficile aussi bien en français qu'en yiddish. Hein. Elles ont été traduites, mais franchement, elles ne sont pas faciles à comprendre. Donc ça, c'était dans un premier temps. C'est là aussi qu'il a participé à la revue Chaliastra, qui est une revue d'avant-garde, qui est devenue célèbre parce que c'est vraiment la modernité yiddish. Y participaient Peretz Markish, Uri Zvi Greenberg et Emel Ravitch, avec souvent des visions très noires de la situation des Juifs en Pologne. Uri Zvi Greenberg en particulier a écrit des textes sur la présence du catholicisme extrêmement pesant en Pologne, et il est d'ailleurs parti en Israël très tôt, en Israël à l'époque où ça n'existait pas encore, hein, dans les années 30. Hein. Voilà, donc Zinger, Yoshua Zinger également a cette vision très noire, et lui est parti, comme je viens de le dire, en 34, et il a fait venir son frère en 35. Ensuite, il y a un premier roman, Yoshe le fou. Il faut dire que Singer a traversé un peu, traversé du désert, puisque ses textes ont été très critiqués. Et il s'est arrêté d'écrire pendant un certain temps, en tout cas d'écrire des romans. Il a écrit des articles, en particulier pour le Fort Wertz. Donc ça, c'est entre 27 et 32. Et en 32 paraît son premier roman, Yoshe le fou, qui se passe dans le milieu chassidique, vu de façon extrêmement noire, extrêmement...
critique.
Critique, oui.
Pourquoi est-ce qu'il a été tellement critiqué à ses débuts?
Peut-être parce que cette écriture était tellement compliquée, hein, et qu'on ne comprenait pas où ça allait. Enfin, je pense que c'était ça. Hein. En tout cas, on voit aussi, à l'époque, vraiment, les gens étaient extrêmement à l'affût de tout ce qui paraissait. Je veux dire, le moindre écrivain qui écrivait, trois poèmes ou une nouvelle était immédiatement lu. Alors, non seulement en Pologne, mais également aux États-Unis. Et puis ensuite, il était critiqué. Et à l'époque, on n'hésitait pas à faire des critiques extrêmement négatives. Hein. C'est-à-dire, les gens se faisaient vraiment attaquer violemment. Et bon, pour certains, c'était très, très difficile. Mm-hmm. Et parfois, ça les amenait, comme je viens de le dire, à arrêter d'écrire, au moins pendant un certain temps. Parce qu'ensuite, il a bien sûr repris. Comme le dit très bien Carole Matran, à la fois il y a une critique très violente de cette société traditionnelle, avec en particulier ces mariages arrangés, ces mariages de jeunes gens très très jeunes, qui ne se sont pas choisis, qui ne connaissent rien de la vie et où ça se passe souvent très très mal. Et en même temps, un côté ethnographique avec le sentiment que cette société traditionnelle, avec tous ses défauts, va disparaître. Alors, pas encore la notion de la Shoah, mais la notion du modernisme, de la Haskalah, de l'abandon du judaïsme, avec aussi le communisme, le socialisme et tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une position ambivalente. Qui va être moins ambivalente après pour Isaac Bashevis-Singer, puisque lui écrit tout ça. Et beaucoup plus tard, il décrit en particulier son enfance, par exemple, beaucoup plus tard, lorsque ce monde a vraiment disparu, et donc où on est plus dans la nostalgie et dans l'évocation adoucie, on peut dire, de tout ça. Alors que bon, chez Israël Yoshua, c'est toujours très violent. Donc ensuite viennent les grands romans, donc les frères Ashkenazi, donc ça c'est la description... du judaïsme polonais, en particulier à Lodz, donc avec toute cette histoire de l'industrie textile. Et ensuite, Kamarad Nachman, qui est l'histoire d'un militant socialiste à qui arrive beaucoup de malheurs. Puis le dernier, c'est, donc les frères Ashkenazi, c'est écrit de 33 à 35, Kamarad Nachman 38, et la famille Kardowski, déjà qui paraît en 43, et qui là montre le sort d'une famille allemande amenée à immigrer aux États-Unis. Tous ces romans sont quand même assez sombres, et c'est pour ça que Singer disait que ses œuvres c'était une littérature de divertissement, ce qu'on appelle en yiddish Verweilung. Quand on lit ça, c'est pas très divertissant, mais ce n'est pas militant, quoi. C'est-à-dire dans l'idée
il l'oppose au militantisme.
Il l'oppose au militantisme.
N'oublions pas les aventures d'un paysan juif. Hein.
Voilà. Alors
les nouvelles.
Les nouvelles. Voilà. Il a écrit également beaucoup de nouvelles. Et je vais d'ailleurs, je ne vais pas lire beaucoup de choses de ce texte parce qu'il est extrêmement complexe, mais je vais lire le commentaire qu'elle fait sur le paysan juif, justement. Et donc, on va...
Qui ne s'appelle pas comme ça du tout, d'ailleurs.
Non, qui s'appelle « Comment Wolf Herschel devint Willy ».
Tout à fait. Moi, il a changé de nom en même temps qu'il a émigré aux États-Unis et qu'il est devenu éleveur de chevaux. En fait, c'est ce qui était son désir le plus profond. Nous avons monté une pièce, on l'appelait « Les aventures d'un paysan juif » parce que ce titre-là ne dit pas grand-chose au public qui ne connaît pas, comment dire, la symbolique des noms, on va dire. Alors, c'est pas mal que tu parles de mariage arrangé et de choses archaïques qui s'opposent à la modernité, parce que les extraits que j'ai choisis sortent d'un CD qui date déjà de 1997, de Joel Rubin, qui est très connu dans ce domaine-là, américain, parce qu'il a vraiment fait des recherches tout à fait ethnologiques, ethnographiques, sur la musique telle qu'on la jouait, à peu près à l'époque dont on parle, la 1920-1930, pas en Amérique, mais dans le vieux pays. Parce qu'après, il y a eu, certains musiciens qui ont émigré de Pologne ou d'Ukraine en Amérique ont continué, mais après, il y a eu vraiment un trou, et puis c'est revenu avec ce qu'on appelle le revival à partir des années 70. Donc lui, il fait partie de cette nouvelle génération à partir des années 70, donc 97, c'est quand même beaucoup plus tard. Et donc, il essaie de recréer vraiment les mélodies telles qu'elles étaient et surtout les arrangements, le son un petit peu. Il essaie de retrouver la musique telle qu'elle était dans ces années. Et ce disque est consacré au mariage, en fait, Beregovskis Hrasene. Et il y a un extrait que j'ai choisi, on appelle ça Gasnigen. Chanson de rue, c'est ce qu'on chante le soir, une fois que la fête est terminée, quand chacun retourne chez soi, et ils sont accompagnés par les klezmorim, les musiciens qui les raccompagnent dans les rues et jouent encore ce Gas Nigen.
Thank you.
Là, c'est riche en ornements, on l'entend. Ça demande vraiment des musiciens de très haut niveau. Toutes les dentelles autour de la note principale.
Voilà, donc on revient à notre paysan juif. Effectivement, j'ai décidé de lire le passage qui lui est consacré. Donc, pour rappeler en quelques mots, donc ce Wolf est un jeune garçon qui n'arrive pas du tout à s'adapter à la vie juive traditionnelle, qui ne veut pas étudier, qui n'aime que les chevaux, la terre. Et donc, il part aux États-Unis après avoir fait son service militaire de façon brillante dans l'armée russe, qui à l'époque était vraiment exceptionnelle. Et puis, une fois qu'il est aux États-Unis, il travaille un peu dans une usine, mais ça se passe très mal. Donc, il finit par se retrouver dans une ferme où il épouse la jeune fermière, la fille du fermier. Et il abandonne complètement le judaïsme. Mmh. Et ensuite, quand il entend parler de la guerre de 14, il écrit à ses parents, parce qu'il se fait vraiment beaucoup de soucis pour leur sort. Les parents ont survécu à la guerre et viennent. Et là, tout d'un coup, reprend une vie juive qui lui est tout à fait étrangère.
Qui est imposée par le père.
Voilà. Et à laquelle sa femme donc, Goy, qui s'appelle Esther, hein, qui est un nom, on peut dire, prédestiné, s'adapte très bien. Voilà. Et lui va se sentir de plus en plus isolé.
Étranger.
Ouais. Voilà.
C'est extraordinaire.
Alors, moi, j'estime que cette nouvelle comporte de l'humour, parce que c'est un petit peu, comment dire, se faire rattraper par son destin et par des choses qu'on a fuies. Bon, voilà ce qu'écrit à ce sujet, Carole Matron. La problématique de l'oubli se résume à une gageure. Si un individu aussi loin du judaïsme que le fermier américain Willy peut finalement résister à l'oubli, ne serait-ce que par une infime parcelle de son être, c'est que le travail de sable de la nature a réussi à épargner une étincelle de mémoire collective tout en donnant à l'individu l'endurcissement nécessaire au salut personnel. La nouvelle consiste à explorer les limites de l'oubli et la résistance imprévisible de la mémoire. Paradoxalement, l'oubli est investi d'une positivité certaine, tandis que la mémoire est secondée par ce qui semblerait devoir la nier, la nature. Façon pour Singer de trouver un compromis acceptable au problème de la collectivité aux dépens de la sérénité individuelle. En effet, d'une certaine manière, l'oubli est désirable et d'autant plus recherché qu'il se révélera finalement impossible. En premier lieu, l'oubli doit tout à la nature. Lorsque l'enfant, par son physique de paysan, semble oublier jusqu'à l'attitude même qui convient à un juif. Lorsqu'il se détourne de l'apprentissage du texte saint pour vagabonder dans les champs, non pas tant rebelle qu'oublieux, incapable de retenir les mots du cantique des cantiques. Voilà, donc ça c'est aussi un moment humoristique quand Singer décrit le désespoir du pauvre Melamed qui essaye d'enseigner à cet enfant le cantique des cantiques. Lorsqu'enfin il oublie jusqu'à la langue, l'écriture, jusqu'au souvenir de ses parents et qu'une trompeuse illusion naturelle lui fait croire qu'il n'a pas réellement rompu avec ce qui était le plus proche en venant s'installer en Amérique puisqu'il y a retrouvé ce qui lui était nécessaire pour vivre, la terre, le ciel, la vie immédiate. Ainsi, l'oubli presque passif et involontaire qui caractérise la différence de l'enfant se transforme avec l'émigration en un processus irréversible dans la mesure où l'individu est seul à l'affronter. Il est parallèle à l'intégration au nouveau pays et signifie aux yeux du personnage une forme de fidélité paradoxale à son identité profonde. Son installation dans une ferme, à la différence de la plupart des immigrants juifs qui s'emploient dans les ateliers des grandes villes, son mariage avec une femme du pays, une protestante, son assimilation presque complète passe par un oubli apparent de sa judéité. Le processus engagé dans l'ancien monde, en particulier avec l'armée, se poursuit en Amérique, prend le visage de l'oubli et non de la transgression, dans la mesure où celui qui l'accomplit n'a aucune conscience de la moindre culpabilité. C'est une action presque mécanique qui se fait sans qu'il y ait volonté positive de rupture, comme un prolongement de l'enfance silencieuse et des vagues puissantes de l'océan. Il n'y a pas non plus d'autre conversion que celle qui réinstalle la nature au centre des rythmes essentiels de l'existence, supplantant sans lutte le calendrier des fêtes juives. À vrai dire, le fermier Willy n'a plus grand-chose à oublier de ce que gardait en mémoire l'enfant juif. L'assimilation est facilitée par la passivité du personnage et l'espace neutre qui se crée au sein de sa nouvelle existence. C'est cette continuité d'enracinement qui constitue la seule fidélité de Wolf. Ses nouvelles alliances, sa femme, sa société d'adoption, son insertion civique lui demandent des accommodements minimes, facilités par la culture protestante qui domine la civilisation américaine. D'autre part, le mariage mixte fonctionne comme un espace de neutralisation réciproque, surtout lorsque la génération des pères disparaît. Mari et femme vivent d'une vie de travail silencieuse et machinale. Esther, elle aussi, abandonne progressivement ses anciennes pratiques religieuses. L'abstention est symboliquement la seule action possible. Ainsi, Willy vote-t-il en parfaite conformité avec les opinions de ses voisins, moins par conviction que par indifférence. La vie privée est à l'image de la neutralité. Mariés et femmes sont liés par leur commune nature, silencieuses et humbles, attachées à la vie profonde, tissée par les habitudes. Ils n'ont pas de projection dans l'avenir puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Ils vivent sans passer d'une existence célibataire qui ressemblerait à l'enfance si elle n'était consacrée entièrement au travail. Hostile depuis son enfance au mode de vie du shtetl, qui est pour lui associé à l'image négative du père, sa distance intérieure et son éloignement de toute communauté juive rendent imprudente sa résurgence du passé. Cependant, cette remontée du souvenir a lieu lorsque la guerre qui ravage les bourgades juives s'étale en première page des journaux américains. Dans ce cas, l'attachement indissoluble à la communauté d'origine se traduit par la réminiscence de la figure maternelle, exempte de conflits, par le sentiment de dette à l'égard des parents. De façon plus positive, cette impression d'appartenance se manifeste pour Willy lorsqu'il retourne pour la première fois depuis de longues années dans le New York, dans le quartier juif de New York, où il se sent étrangement propre de ceux qui l'entourent. Alors donc là, effectivement, bon ben il fait revenir ses parents. Voilà, donc il y a toute cette analyse de cette contradiction entre le fait d'avoir essayé d'oublier complètement sa judaïcité et puis de faire quand même venir ses parents qui, eux, remettent en place. Vous voyez, ça prend du temps de lire ce texte parce qu'il est très dense, très dense, complexe.
Mais intéressant. C'est vrai que le personnage de Wolf, Willy, est très intéressant. Il est un petit peu comme absent à lui-même, quoi. Il est un peu... Comme on voit au début, alors le cantique des cantiques, c'est qu'on avait concrétisé dans la chanson El Ginat Egoz, qui est donc un extrait du cantique des cantiques, qui n'arrivait pas à apprendre. Son père essayait de lui apprendre El Ginat Egoz et il n'y avait rien à faire. Donc il a aussi un petit peu demeuré, enfin demeuré s'exagérer, mais pas très très malin intellectuellement.
Alors on peut voir ça comme ça, on peut voir ça aussi comme un rejet vraiment violent de cette culture, qui était d'ailleurs que partagée, enfin si je peux dire, je pense que pour Lutho Zinger a projeté dans son personnage lui-même. Bon, lui était évidemment quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais il n'arrête pas de dire dans son autobiographie d'un monde qui n'est plus combien il avait envie de sortir, de s'amuser avec des animaux, de voir des chevaux, de s'amuser aussi avec les autres enfants et qu'on l'obligeait tout le temps à étudier. Oui. Voilà, on va peut-être arrêter là parce que le temps passe.
C'est beau. Très belle analyse, quoi qu'il en soit, hein, même si c'est un petit peu difficile à lire, il faut se prendre le temps.
Ah, oui, c'est pas Farweilung littérature.
Oui, soi-disant.
Bon. Voilà. On vous dit shalom aleichem et à la semaine prochaine.
Et merci Thomas.
Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.